Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Et ouf, il est là, il vient d'arriver. Bonjour Antoine Bello.
Bonjour Toufik.
Alors ce voyage, vous venez d'arriver des États-Unis où vous vivez depuis quelques années, ça on a fini par le savoir.
Depuis 15 ans, oui.
Est-ce que vous avez dormi un peu ?
J'ai dormi 5 heures, oui.
Bon, alors Antoine Bello, votre dernier roman, comme les précédents, est publié par Gallimard dans sa collection dite Blanche. Mais franchement, on peut lire L'homme qui s'envola, c'est le titre de votre dernier ouvrage donc, comme un vrai polar. Et c'est l'histoire d'un winner. Walker a tout à fait réussi sa vie. Il dirige une florissante entreprise de transport au Nouveau-Mexique et sa femme, la belle, la riche, Sarah, lui a donné 3 magnifiques enfants et pourtant, il le dit, il ne supporte plus sa vie. Walker détestait sa vie, son temps lui échappait. Entre Sarah, les enfants, la boîte, il n'avait pas une minute à lui. L'argent, Walker s'en foutait. Il en avait plus qu'assez. La vraie richesse, le seul bien qui ne s'achetait pas, c'était le temps. Il savait où passer chaque seconde de son précieux combustible et cherchait constamment des façons d'en tirer un meilleur rendement. Il avait pris des cours de lecture rapide, aménagé une salle de gym dans son sous-sol, appris à voler afin d'optimiser ses déplacements. Il avait banni les cravates de sa garde-robe, se rasait dans sa voiture et portait des mocassins pour ne pas avoir à lacer ses chaussures. Un fiscaliste préparait sa déclaration de revenus, un gestionnaire de patrimoine administrait sa fortune, un régisseur coordonnait les allées et venues des jardiniers, du chauffagiste et du rameneur avec, en tout et pour tout, 2 consignes. Ne pas lésiner et le déranger le moins possible. Walker voulait plus de temps pour lui, sans avoir de compte à rendre. Il en faisait une question de principe. Et pour cela, Antoine Bello, il est prêt à tout abandonner, à faire croire qu'il est mort dans un accident d'avion, pour disparaître et avoir le temps qui reste, tout le temps, pour lui.
Oui, vous mettez ces extraits bout à bout et il compose le portrait, je m'en rends bien compte, d'un homme qui va sembler assez détestable ou assez méprisable à certains. Je sais que mes lecteurs réagissent de façon différente, au-delà du livre qu'ils aiment bien et du polar. La personnalité de Walker polarise énormément.
Mais vous, vous l'aimez ?
Je l'aime évidemment, comme on aime tous ces personnages. Je pense que quand on est un écrivain, on est obligé d'aimer un minimum ces personnages pour passer presque un an en leur compagnie. Mais évidemment, il m'est très sympathique, je compatis. Parfois, j'écrivais un paragraphe et je me disais « pauvre Walker ». Et je me rendais bien compte en écrivant ça que je m'apitoyais sur moi-même parce qu'il y a énormément de traits de sa personnalité que je suis allé chercher chez moi.
Voilà ce qui m'évite de vous poser la deuxième question. En quoi il vous ressemble, Antoine Bello, vous qui avez réussi aussi en tant que manager d'une boîte?
Il me ressemble énormément. Il a en effet connu une réussite entrepreneuriale. La différence, c'est que donc moi, j'ai vendu mon entreprise il y a 10 ans. Parce que je sentais que mon temps m'échappait et que si je voulais faire d'autres choses dans ma vie, il fallait me couper ce fil à la patte. Lui l'a gardé pour d'autres raisons. C'est plus difficile dans son cas de sortir de son entreprise parce qu'elle est possédée par sa femme. Donc il y a des milliers d'employés qui dépendent de lui. Il y a des actionnaires qui se tournent vers lui. Il est le notable d'Albuquerque. Et sa femme est très attachée à ce statut, à la fois évidemment au développement de l'entreprise, en mémoire de son père qui était le créateur à l'origine de l'entreprise, et puis aussi du statut social que ça lui confère. Pour elle, il n'y a pas de plus grande fierté, de plus grande réussite que d'être la famille qui fait vivre des milliers de personnes dans le comté. Donc on a ce point commun. J'ai aussi de très beaux enfants que j'aime énormément. L'amour de Walker pour ses enfants n'est pas en cause. paradoxalement, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre.
Ni pour sa femme, d'ailleurs, c'est ça qui rend ce roman très ambigu.
J'en ai conscience, le roman est ambigu, c'est-à-dire je commence par montrer une vie de rêve, en tout cas. Je pense que la plupart des gens, en lisant le premier chapitre, se diront, mais je veux la vie de ce mec-là. Il a tout, il a la richesse, il a son propre avion, sa femme est superbe, elle a de l'esprit, de l'humour, ses trois enfants, formidable, il joue au baby-foot en rentrant le soir. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Et puis ensuite, j'explique pourquoi, en fait, cette vie dorée lui pèse de plus en plus et il ressent parfois le besoin de prendre le large. Et en même temps, je décompose chacun de ces aspects pour montrer qu'il les aime en soi. Il a aimé développer cette entreprise. Il est très très bon pour la diriger. Il s'est entouré. Il ne s'est peut-être pas suffisamment délégué. Ça, c'est un de ses défauts et il le confesse volontiers. Il aime encore sa femme. Il adore ses enfants. Il aime Albuquerque, le Nouveau-Mexique. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il a l'impression qu'on demande trop de lui.
On peut le dire autrement, il est esclave de sa réussite, quoi.
Il est esclave de sa réussite et les gens de son entourage ne comprennent pas qu'on puisse aspirer à un bonheur différent. C'est-à-dire que quand il l'en discute avec sa femme, donc Sarah, en lui disant, tu sais, moi, ils ont une offre de rachat de l'entreprise qui la valorise extrêmement bien, il pourrait être très très riche et puis faire autre chose. Il dit, j'ai 45 ans, je peux encore faire beaucoup beaucoup de choses dans ma vie. Et elle lui dit, mais non, il faut continuer encore un petit peu. Qu'est-ce que tu ferais avec ton argent, les doigts de pied en éventail? Ah non, crois-moi, je ne resterai pas les doigts de pied en éventail. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que diriger une entreprise ici et de poursuivre l'œuvre commencée par papa et ces milliers de gens qui comptent sur toi? Et il a beau expliquer, les gens ne comprennent pas. Quand on est arrivé au pinacle ou un certain degré de réussite, les gens ne comprennent pas que vous puissiez faire autre chose. Si Zidane, à 28 ans, avait dit « c'est bon, le foot, je crois que j'ai un petit peu fait le tour, je vais aller faire autre chose », la pression aurait été démentielle sur lui pour qu'il continue, de son club, de ses fans, de sa famille probablement, et de son entourage. Dans notre société, quand quelqu'un réussit, on attend de lui qu'il tire sur la corde le plus longtemps possible, qu'il crée l'entreprise la plus grosse possible. Il a créé une entreprise de 3000 personnes. Tout le monde lui dit, mais tu peux aller jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000. Ça, je l'ai ressenti très, très profondément. Moi, quand mon entreprise s'est beaucoup développée dans des proportions qui sont pas celles de Walker, mais j'ai forcé le trait parce que forcément, on est dans un roman. Et puis, on est aux États-Unis, tout est plus grand. Mais il y a eu un moment où voilà, ma société a passé le cap 10 personnes, 50, 100, 200, 300, 400. Et on se dit, mais oui, ça a l'air si facile d'une certaine façon. Peut-être que si je reste encore un an, 5 ans, 10 ans, on va atteindre des chiffres qui seront fous. 1000 personnes, 5000 personnes un jour. Et je me suis dit, il y a véritablement une prise de conscience chez moi vers 2005 ou 2006 de me dire, mais au fond, ça n'aura jamais de fin, cette histoire. J'ai racheté, je m'occupais de racheter les sociétés pour le groupe. J'en ai racheté une, c'est formidable, on apprend énormément. Deux, tiens, oui, là, il y a des choses que je n'avais pas vues. Trois, quatre, cinq, huit. À ma 10e entreprise, je me suis dit, mais enfin, j'en ai fait 10, je peux en faire 20, je peux en faire 30, je peux en faire 100. Ça ne se terminera que quand je serai mort, cette histoire.
Et je n'aurai pas le temps de profiter de la vie, et je de l'argent pas le temps. Gagné.
Et je n'aurai, voilà. Et puis, il y a un moment où Walker, qui a cette obsession du temps que j'ai, que je confesse, hein, qui ne s'explique pas vraiment, je crois qu'on est câblé comme ça ou pas, c'est cette phrase que vous avez citée m'a toujours paru d'une très grande sagesse. Le seul bien qui ne s'achète pas, l'argent. Même Bill Gates n'a que 24 heures dans ses journées. Même Bill Gates ne vivra que 80 ou 90 ans. Et donc, il a à un moment, ce besoin qui est presque primal dans son cas, mais absolument viscéral, qu'il a beaucoup de mal à expliquer, parce que c'est pas quelqu'un qui met forcément des mots. Alors moi, je mets des mots sur ce qu'il ressent, mais lui-même n'est pas un homme à avoir justement à s'analyser énormément, ou à avoir des conversations avec sa femme, ou à écrire des lettres à ses enfants pour les supplier de comprendre. Mais il sent qu'il a besoin de temps pour lui. Il sent qu'il a besoin de revendiquer sa liberté, de récupérer sa liberté et, comme vous le dites, de pouvoir faire ce qu'il veut sans rendre de compte à personne.
Et pour cela, il prépare bien son coup, il met l'argent, il planque son argent, il trouve des prête-noms, tout est vraiment bien préparé, même si on sent que cet homme, il est vraiment trop attaché à sa famille, à sa vie, et que c'est vraiment le saut dans le vide, lui qui aime bien piloter les avions, c'est-à-dire de donner un sens à sa vie, quitte à passer par cette extrémité, c'est-à-dire tout abandonner. Ça, c'est le début, l'accident d'avion qui va réussir, et puis enfin, il disparaît. Mais Antoine Bello, dans L'homme qui s'envola, pour revenir au polar, au côté polar de ce livre, c'est qu'il va y avoir un détective qui va enquêter pour savoir s'il a réellement disparu. Alors ce détective, c'est peut-être une spécialité américaine, vous allez nous le dire, Antoine Bello, c'est un Skip Tracer.
Skip Tracer. Oui, c'est un métier typiquement américain. Il y a des milliers de Skip Tracers aux États-Unis dont le métier
est spécialisé dans les disparitions. C'est
récupérer
incroyable.
Les gens disparus et surtout récupérer les gens qui essayent d'échapper à leurs obligations de pension alimentaire, par exemple, ou les gens qui ont été libérés sous caution et qui ont pris la fille de l'air. Et à ce moment-là, les comtés, les autorités les payent pour faire revenir ces gens, les ramener en prison.
Mais ils sont redoutables. Est-ce qu'ils sont aussi redoutables que Nick Shepherd, détective privé?
Nick Shepherd, c'est... on est encore dans un roman. Je voulais que Walker, qui est un formidable compétiteur et un formidable adversaire, donc il est probablement le meilleur skip tracer qui ait jamais existé. Mais oui, ces gens sont plutôt assez forts. Et Shepherd, donc cet expert qui est engagé par les compagnies d'assurance, parce qu'il y a des assurances sur la tête de Walker et sa société va toucher des sommes rondelettes, la compagnie d'assurance avant de payer, engage un expert pour s'assurer qu'il est bien mort dans l'accident d'avion. Et c'est là, en effet, la très grande malchance de Walker, c'est qu'il est tombé sur probablement le seul skip tracer qui pouvait vraiment lui donner du fil à retordre, parce qu'il a très bien préparé son départ. Mais Shepherd est juste un cran au-dessus de tous les autres, et donc apprend à lire les indices. Il a un sens tactique incroyable. Il sait toujours dans quelle ville Walker a pu partir en fonction des tracés des autoroutes, des trajets, des heures de train. Il a des correspondants dans toutes les villes américaines. Il a une connaissance de l'informatique, puisqu'aujourd'hui, ça joue absolument un rôle absolument crucial dans ces questions. Donc, il sait surveiller les sites web sur lesquels Walker avait l'habitude d'aller. En gros, il le dit d'ailleurs, Shepherd explique qu'il a un avantage par rapport à ses proies. Il dit, eux doivent m'échapper tous les jours. Moi, il suffit que je les prenne une seule fois. Et donc, la moindre erreur sera fatale à Walker. Et donc, ça lui met une pression qui est absolument démentielle, au point qu'il va vite... pas regretter son ancienne vie, mais il va se dire « mon ancienne vie n'était pas plus facile ».
Et c'est le meilleur moment de cette course. Est-ce que vous oubliez de préciser, Antoine Bello, si c'est ce détective, ce Skip Tracer, ce Nick Shepherd, s'il est redoutablement intelligent, il a quand même un cœur, et ce cœur, il a ses failles, parce qu'il va tomber amoureux de la fausse veuve. On n'en dit pas plus, je crois.
Voilà, on a une idée de tous les problèmes de conscience que ça peut poser à partir du moment où il sait que le mari de Sarah est mort. Est-ce qu'il a intérêt à le dire à Sarah ou est-ce qu'il a intérêt à laisser Walker dans la nature pour consoler la veuve ?
homme disparaît et un détective le piste à travers des routes américaines qu'on ne connaissait pas, Antoine Bello. Dans L'homme qui s'envola, vous nous faites découvrir une autre Amérique.
Disons que...
Même s'il y a quelques noms qui nous sont familiers.
Oui,
hein.
Oui.
Little Rock, par exemple. Bon, ok, Bill Clinton, la chanson de Marilyn Monroe. Mais c'est pas la 66 que vous empruntez.
Ben, disons qu'il y a une contrainte d'abord qui s'impose. C'est que Walker veut rester aux États-Unis et Shepard veut le pister uniquement aux États-Unis. Il dit, moi, je m'occupe même pas des gens qui sont assez bêtes pour essayer de passer les frontières sans papier. Ça ne m'intéresse pas. Donc il y a une sorte de règle du jeu implicite qui s'établit entre les deux hommes. Et une des premières règles dans ces cas-là, pour Walker, en tout cas donc le fuyard, c'est d'éviter les côtes, c'est de jamais se retrouver acculé. Donc jamais retrouver acculé par la mer, jamais aller dans une ville à laquelle on ne peut accéder que par une seule piste, jamais aller au bout d'une ligne de bus. Et donc, en effet, ça l'amène assez naturellement à rester au centre du pays, dont on ne parle en effet pas beaucoup, souvent dans les romans, en tout cas les romans français. Et donc, il y a beaucoup de villes. En plus, les villes qu'il aime bien, c'est des villes de 100, 200, 500 000 habitants, mais pas les mégalopoles, où il risquerait de croiser des anciens de son université ou des gens qu'il a connus dans le business. Il est hors de question pour lui d'aller à New York ou à Chicago. Et en même temps, pas d'aller dans des trous où il se ferait remarquer.
Et à quoi elle ressemble cette Amérique là que vous nous faites remonter à travers le Tennessee River?
Moi, c'est une Amérique personnellement qui m'est très sympathique, que je connais pas si mal parce que j'ai traversé plusieurs fois les États-Unis et donc on passe pas mal de temps dans cette Amérique et on s'arrête dans ces motels et dans ces petits diners et on prend des pancakes au petit déjeuner. Et c'est une Amérique qui est très civile, où les gens sont très gentils. Ça a un côté un peu... les paysages sont pas spécialement gais parce que c'est des terres agricoles. Les villes ont été colonisées par les grandes surfaces spécialisées. Donc on a ces grandes routes où un Walmart succède à un Staples qui succède à un Best Buy. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de charme. Mais pour Walker qui cherche avant tout à passer inaperçu, au prix d'ailleurs de grandes, enfin de démarches quotidiennes, c'est-à-dire qu'il peut pas prendre une chambre d'hôtel par exemple en se présentant lui-même à la réception, il est obligé de recruter quelqu'un.
Quitte à se faire arnaquer par ce quelqu'un.
Quitte à se faire arnaquer, exactement, lui disant va prendre une chambre pour moi et je te donne $20 ou $50. Bon, mais c'est une Amérique où on voit que Walker pourrait rester. Je crois qu'il y a une idée, sa femme probablement se dirait c'est quelqu'un d'assez sophistiqué, il a besoin d'être dans une grande ville et tout. De nos jours, la vérité, c'est qu'on n'a plus besoin de ça. Il y a beaucoup de... À une époque, on disait il faut que je sois près d'un cinéma ou il faut que je sois, que je puisse aller faire mes courses. Maintenant, on peut se faire livrer à peu près tout et n'importe quoi. On peut consommer tous les films et toutes les séries du monde depuis un bled de l'Arkansas. Ça change un petit peu le rapport. Et j'imagine assez volontiers que Walker, qui est... amoureux de la nature, pourrait se fixer dans un endroit, justement, où il peut randonner tout le week-end sans rendre de compte à personne.
Antoine Bello, c'est la fin de cette interview autour de votre roman L'homme qui s'envola, édité par Gallimard. Vous vous souvenez que la dernière fois que vous êtes venu en tant qu'Américain, franco-américain, mais vivant depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, vous étiez comme tout le monde, c'est-à-dire sûr que Donald Trump ne passerait pas, il est passé.
Ah ouais.
Alors
J'étais venu vous voir quand ça devait être en septembre, oui, 2 mois avant l'élection, oui, mea culpa, et en même temps, comme vous dites, on était vraiment, on était unanime à penser ça.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Antoine Bello?
Ce qui a changé, c'est quand même, il y a une peur maintenant, il y a une forme d'incertitude qui est très très anxiogène parce que on sent que ce type est capable de n'importe quoi.
Vous avez voté aux États-Unis?
J'ai voté aux États-Unis.
Vous avez voté en France?
J'ai voté pour Hillary Clinton. Aux États-Unis, je le dis. En France, je dirais pas pour qui j'ai voté, mais oui, j'ai voté également. C'est un des bénéfices d'avoir deux citoyennetés.
Merci Antoine Bello d'être passé ce matin.
Merci Toufik.